Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Deux chavannes cherchent copains. Mais c'est quoi ce truc?
C'est quoi ce truc? Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis des TikTokers. Des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Des chavannes cherchent copains. Des copains. Des chavannes cherchent copains. A tout de suite, les amis.
Alors, Julie Bourges, nous sommes installés. Vous êtes Julie, vous êtes non pas de Bourges, mais du Midi.
C'est ça, oui. Du Sud-Est.
Ah, ben, vous connaissez très bien l'expression du Midi.
Ouais, je connais bien.
Ouais, très bien. Et je vous reçois parce qu'en fait, il vous est arrivé une petite cagouille, une grosse même quand vous aviez 16 ans. Aujourd'hui, vous en avez
26, ouais. Ça fait 10 ans.
Donc, il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, vous avez fait preuve d'une abnégation, d'une résilience et d'un courage formidable. Et maintenant, vous partagez. Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé il y a 10 ans ?
Oui, bien sûr. Donc, c'était le 12 février 2013. C'était le carnaval organisé par mon lycée. J'avais fait un costume de mouton avec ma meilleure amie.
Comment on fait ça ?
On fait ça avec... on a imaginé ça, en tout cas. Avec du jean sur lequel on a mis du scotch double face. Et des boules de coton en vrac un peu partout. Et on a fait ça pareil sur le haut et sur la tête, avec un bonnet.
Super mignon.
Voilà. Donc en vrai, le costume était plutôt pas mal. On était favoris du jury au concours de déguisement, donc on était assez contentes. Et la journée se passe tout à fait normalement, parce qu'on fume comme de bonnes adolescentes devant le portail du lycée, entre les cours. J'ai dû passer je sais pas combien de fois à côté de cigarettes allumées, je pense, sans me rendre compte dans la journée. Et en fait, c'est la dernière cigarette que je décide de fumer avant de remonter à la maison, avec une autre amie qui, elle, n'est pas déguisée en mouton, heureusement, que ma vie bascule, puisqu'en fait, le bout de la cigarette tombe sur mon costume et mon costume s'enflamme, en commençant par la jambe droite.
Donc ça, c'est à l'arrêt de bus, puisqu'en fait, vous prenez le bus, vous quittez la kermesse, vous prenez le bus, vous montez dans le bus, et en descendant avec votre copine, une dernière clope avant de se séparer.
Exactement, exactement. Et c'est la clope du destin, je pense, on peut dire ça.
C'est quoi, c'est le bout qui est tombé ?
Ouais, la cendre brûlante.
La fraise.
Je pense. Enfin, on imagine, en vrai, on n'a jamais su, mais je ne vois pas d'autres circonstances possibles, je pense que c'est ça.
Et vous vous êtes rendu compte de rien au début ?
Non, c'est mon amie qui m'alerte, en fait, et qui me dit que, littéralement, je suis en train de prendre feu. Et j'ai pas d'autre solution à ce moment-là, tellement le costume est inflammable, de me lever, de courir pour essayer d'éteindre le feu. Donc c'est un mauvais réflexe, hein, ouais, évidemment.
Oui, je crois, oui. Il vaut mieux se rouler.
Voilà, c'est ce que j'ai fait après. Mais bon, en fait, le costume était tellement inflammable que j'en suis devenue vraiment prisonnière et que je pouvais pas faire grand-chose d'autre que d'attendre, en fait.
Qu'est-ce qu'il y avait sous le coton ? Sur quoi était collé le coton ?
Sur du scotch.
Oui, mais le scotch était sur quoi ?
Sur le jean. En fait, c'est le jean m'a pas mal protégé.
Ah,
quand même.
C'est ce que j'allais dire. Ouais, heureusement que c'était un jean.
Heureusement.
Et pas un
leggings ou quoi, ça aurait été compliqué.
Ouais, ouais, voilà. Ouais.
Le jean m'a pas mal protégé. Et bah, du coup, le verdict, c'était que j'étais brûlée sur 40% du corps, au troisième degré. Et en fait, le dernier souvenir que j'ai de cette journée, parce que j'ai jamais perdu connaissance et je m'en souviens vraiment comme si c'était hier, je me suis réveillée 3 mois plus tard, en fait, après cette journée.
Ils vous ont mis dans le coma, en fait.
Ouais, exactement.
Tellement c'est douloureux.
Ouais. Ouais, et puis il y a eu plein de complications. On n'a pas pu m'en sortir parce que j'avais des fièvres à 43 degrés. Ouais, mon pronostic vital est resté engagé. J'avais des infections et on ne savait pas d'où ça venait. Donc en fait, j'étais maintenue dans un coma qui aurait dû durer normalement 3 semaines, 1 mois. C'est un peu le processus de guérison chez les grands brûlés. Et moi, j'y suis restée 3 mois parce qu'il y a eu des complications et que si on m'en sortait, je pense que je ne serais plus là aujourd'hui, quoi.
Donc vous avez été en réanimation ou en soins intensifs ?
En réanimation, ouais.
En réanimation. 3 mois, c'est long.
C'est très, très long.
Et quand vous vous réveillez, est-ce que vous savez ce que vous faites là ?
Je sais ce que je fais là, mais j'ai aucune conscience de la gravité de ce qui vient de m'arriver, quoi. Pour moi, en fait, dans mon insouciance d'adolescente, C'est assez bizarre, hein, parce que je sais que j'ai pris feu, je sais l'accident, mais j'ai pas vu mon corps, j'ai pas vu mon visage, j'ai pas vu mes cheveux, je sais pas du tout ce à quoi je ressemble, quoi.
Et vous aviez des douleurs jusqu'à l'hôpital ou même pas?
Ouais, si.
Si. Si, si.
Les douleurs sont assez intenses, ouais.
Là, vous avez commencé à déguster. Ouais, je crois qu'il y a rien de pire que les cambrioles.
Ouais, ils disent que c'est ça, et puis après c'est l'accouchement, donc. Comme ça, si un jour j'ai des enfants, j'aurais vécu les deux.
c'est plus court parce que une réanimation de 3 mois pour un enfant, c'est embêtant.
Oui, ça, c'est sûr.
Vous n'en avez pas pour l'instant.
Quoi. Non, non.
Vous êtes jeune, vous avez le temps.
J'ai le temps, j'ai bien le temps.
C'est quoi la première angoisse quand vous allez vous regarder dans une glace? Vous demandez d'abord à quoi vous ressemblez?
Ouais.
Aux gens qui vous entourent?
Ouais, en fait, le problème, c'est qu'on ne m'apporte pas de suite un miroir parce qu'il y a un suivi psychologique et psychiatrique. On ne nous donne pas un miroir comme ça. Donc, c'est très, très long d'imaginer ce à quoi on peut ressembler. Et mon seul moyen de voir ça, c'est à travers les yeux de mes parents. Sauf que dans les yeux de mes parents, à ce moment-là, il y a de la terreur, quoi, de voir leur fille comme ça. Donc c'est très dur, et au moment où on m'amène enfin un miroir, je pense que ça a duré 3 semaines quand même.
Ah
ouais, je suis restée 3 semaines en n'imaginant pas ce à quoi je ressemblais.
Et dans ces cas-là, on est dans « je veux voir » ou on est dans « je veux pas voir » ?
Moi, personnellement, j'étais dans « je veux voir » et « je veux comprendre ce qui se passe ». Uh-huh. Et quand j'ai pris enfin un miroir, quand on m'a mis un miroir devant les yeux, j'ai compris, du coup. Mais du coup, j'avais plus de cheveux, on m'avait rasé la tête. J'avais les cheveux longs autant qu'aujourd'hui. Et puis, je pesais 32 kilos, j'avais perdu 15 kilos quasiment dans le coma. Donc, en fait, moi, quand je me vois dans le miroir, j'ai hyper peur de mon avenir, quoi.
Alors, on va expliquer quand même le niveau des brûlures, on le sait. Mm-hmm. Et elles vont 40%, on a compris. Mais 40% du corps, c'est beaucoup.
Ouais.
Mais ça va de où? Alors, j'en vois une partie, moi, en face de moi. Mais vous avez une chance quand même quasi inouïe. C'est que votre visage est pratiquement intact. Jusqu'au niveau du menton, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Et le reste?
Bah, donc, du coup, le cou, un peu les bras, la moitié du dos et les jambes de manière un peu parsemée.
Ouais.
Voilà.
Et au début, on s'accepte?
Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qui est compliqué, c'est que je me suis connue avant et donc sans cicatrice. Et j'étais pas du tout une ado complexée en plus de ça. J'étais vraiment bien avec moi-même.
Vous n'aviez pas vraiment de raison de l'être?
Non, j'avais pas
de
raison de l'être.
J'étais une jolie jeune fille.
Oui. J'étais dans les standards en plus, donc voilà. Et du coup, là, je découvre que mon corps tout entier est un complexe, quoi. Donc, je m'accepte pas du tout et je me demande comment ça va évoluer, surtout. Parce qu'en 2013, il y a 10 ans, on parle pas du tout, enfin, on n'en parle pas encore trop maintenant d'ailleurs, mais il n'y a pas d'exemple, en fait, de grand brûlé.
Comment ça, il n'y a pas?
Est-ce que vous connaissez une autre grande brûlée que moi? Ou un autre grand brûlé?
Connu, non.
Ah ouais.
Mais il y en a, je crois, chez les ouvriers. Si, des grands brûlés, il y en a, je pense, mais non.
Oui, il y en a. Il y en a beaucoup, même.
Bien sûr.
Il y en a 400 000 en France.
Ah oui, en effet. Vous voulez un bout de quiche?
Non, merci.
Vous restez combien de temps à l'hôpital, en tout?
Je reste 5 mois en tout.
Mais pendant ces 3 semaines où on vous refuse un miroir, vous êtes dans quel état? Vous comprenez qu'on vous le refuse? Vous acceptez?
Ou vous êtes... Non, je suis assez en colère.
Vous êtes fâché, ouais, c'est ça?
Je suis assez en colère.
Vous dites à vos parents, mais apporte-moi un miroir.
Ouais. Et mes parents, ils ont la consigne de respecter les conseils du psychologue, quoi.
Mais est-ce qu'on a raison d'attendre 3 semaines?
Je sais pas, je pense pas. Moi, je pense que personnellement, c'est ce qui m'a terrifiée. Et puis, on imagine le pire. Bon, déjà, le pire était sous mes yeux, mais on imagine encore plus grave. Et puis, c'est dur de vivre 3 semaines en imaginant ce à quoi on ressemble.
Parce que vous pouviez pas sortir du lit.
Je pouvais pas sortir du lit. Je pouvais pas tenir une fourchette dans les mains. Donc, un téléphone, c'était encore plus compliqué, quoi.
Vous étiez comme momifié.
Je suis alité.
Momifié.
Ouais, vraiment.
Est-ce que c'est vrai que dans ces cas-là, pour avoir des changements de pansement, il faut une anesthésie générale?
C'est vrai.
Vous en avez eu plein alors?
Un jour sur deux pendant 5 mois. Et on s'en remet jamais, d'ailleurs. J'ai appris il n'y a pas longtemps que le corps pouvait éliminer une anesthésie générale, mais 1 an. Donc du coup, moi, j'en ai pour toute la vie, quoi.
C'est vrai?
Ouais. C'est assez dingue. En tout cas, j'ai eu beaucoup de séquelles par rapport à ça. Par rapport au coma, par rapport aux médicaments injectés, etc.
Du genre?
Digestif, c'est compliqué, ouais. C'est dur de s'en remettre, ouais.
Bon, parce qu'aujourd'hui, je trouve que vous avez l'air... vous avez un regard qui pétille, quand même.
Ah, je vais très bien, aujourd'hui.
Comment s'est passée cette transition entre je suis en panique, je suis une jeune fille qui devient, entre guillemets,
différente.
Comment se fait la transition à je suis différente, mais je vais très bien?
L'amour, je pense. L'amour de mes proches. Le fait d'être entourée, je pense que ça aide. Moi, j'étais quelqu'un qui était amoureuse de la vie, de la liberté. Moi, j'étais bien entourée de mes potes, de mes proches. Et je pense que c'est ça qui... Le moteur, en tout cas, pour m'en sortir, il est là, quoi. Je pense que si je suis seule à ce moment-là, c'est compliqué. Beaucoup plus.
Les gens ont fait face avec vous, du genre, t'es dans la merde, mais on va t'aider, ou t'inquiète pas, chérie, c'est rien. Parce que je sais que c'est très important, ça.
Ouais.
J'ai discuté avec Philippe Croizon.
Ouais.
Et il a beaucoup souffert de ça, parce que pendant des années, sa famille disait « mais non, c'est rien ». Alors que non, c'est pas rien.
Alors moi, non, on n'a pas du tout banalisé. Moi, ça a été tout l'inverse, j'avoue. On n'a pas du tout banalisé ce qui m'était arrivé. Moi, mes parents, ils ont énormément souffert avec moi. Mais ils ont tellement souffert que du coup, moi, je les ai protégés. Donc des fois, j'ai pris pour habitude de taire ma voix, en fait. Et de taire mes émotions pour les protéger parce que j'estimais qu'ils souffraient assez. Moi, ça a été tout l'inverse, pour le coup.
Mais ça a été dur pour vous, alors.
Ça a été dur et du coup, j'ai trouvé d'autres moyens pour libérer ma voix, en fait.
Psy?
Non. J'ai pas eu psy, psychologie.
Vous avez chanté?
J'ai écrit.
Ah, ok.
J'ai écrit, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'à la base, le partage sur les réseaux, il vient de là. Mais j'ai beaucoup écrit et beaucoup de sport aussi.
Mais est-ce que vous alliez directement faire du sport en montrant votre corps ou est-ce que vous
vous
cachez?
Non, j'étais cachée. J'ai eu la chance d'avoir une coach de gym parce que j'étais gymnaste du coup, qui me laissait faire de la gym avec une écharpe autour du cou, ce qui potentiellement était assez dangereux quand même. Mais elle me faisait confiance et je pense que c'est ce qui m'a aidé quand même à.
C'est dangereux parce que.
Bah, par exemple, sur des barres asymétriques en gymnastique.
Ah oui, pour s'accrocher, oui, c'est con.
C'est pas...
Ça aurait été dommage.
C'est pas... Ça aurait été con de s'en sortir.
Oui, de sortir de ça pour se retrouver pendu.
Ça
aurait été couillon.
Donc non, elle m'a fait confiance, elle a eu raison, parce que c'est ce qui m'a, en tout cas, donné la motivation de retourner au sport et puis d'accélérer aussi tout le processus de refonte musculaire.
Parce que c'est jeune, 16 ans, psychologiquement, pour s'attaquer à tout ça.
Clairement. C'est hyper jeune, ouais. C'est hyper jeune, et puis en tant que femme, en plus, on se construit, enfin, en tant qu'homme, d'ailleurs, aussi. C'est en tant qu'ado, on se cherche, on se construit à ce moment-là. Donc, moi, dans toute ma phase de construction, ma bulle, elle a explosé un petit peu à ce moment-là. Donc,
Il s'est passé quoi?
En fait, c'est plein de choses. C'est faire face au regard des gens dehors, c'est faire face au regard des garçons, aussi. Parce que moi, j'ai 16 ans, j'avais des copains, aussi, avant mon accident.
Enfin, j'ai eu mes amoureux. Donc, j'aurais plus jamais de mec. Exactement. J'aurais plus jamais d'histoire, j'aurais pas d'enfant, j'aurais pas de vie.
Pas de travail.
Oui, c'est ça.
Moi, je voulais bosser dans le luxe, en plus. Donc je m'étais dit, comment je vais faire pour bosser, je sais pas, pour des grandes marques en étant brûlée, ça va être compliqué.
Parce que les gens ont un regard bizarre.
Bah ouais, puis le handicap physique, il est pas nécessairement reconnu, quoi. Le choix se fait vite.
Ça, on va dire que les progrès sont...
Là maintenant, mais il y a 10 ans, pas du tout.
Ah oui?
Ouais, il y a 10 ans.
Ça a beaucoup évolué en 10 ans, alors?
Bah, il y a 10 ans, je cherchais brûlure sur Internet, je suis tombée sur des coups de soleil, donc je pense que ça a évolué.
Ah oui, c'est ouf, ça.
Ouais, ouais.
Parce que ma grand-mère était une grande brûlée, c'était...
Je sais.
Comment vous savez?
Bah, sur Salut les Terriens, vous l'avez dit.
Ah, okay.
Quand on s'était rencontré avec Monsieur Hardisson.
Ah, vous étiez là?
Ouais, bien sûr. Oh,
bravo de Chavannes.
Ah là là. Il y avait Dave à côté de vous. Monsieur Baffy, qui m'a fait une vanne d'ailleurs.
Pas drôle?
Pas ouf.
Non, ça m'étonne.
Pas ouf, enfin les vannes de mon père, quoi.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes pas en col roulé, hein, donc ça veut dire que vous acceptez super bien. Le regard des garçons est comment? Est-ce que ça a changé votre vie par rapport à ça, encore maintenant? Parce qu'ils sont un peu couillons, les garçons. Hein.
Ouais, bon, moi, je les ai vécus, hein, ces trucs de si t'étais pas brûlé et tout. Mais plus quand j'avais 16 ans.
Ah, super, en plus, quand c'est exprimé.
Ah, c'est exprimé, c'était bien exprimé.
Ah, génial.
Moi, je les ai vécus, ces trucs. Mais non, aujourd'hui, non. Moi, j'ai presque envie de vous dire qu'aujourd'hui, les garçons, presque, ça les intrigue.
Ça les émeut.
Ben, ça les émeut, ça les intrigue. Et puis, parce que je suis bien avec moi-même aussi, je pense qu'il y a cette part-là.
Vous avez mis combien de temps à être bien avec vous-même?
Bon, ça met du temps, hein. 4-5 ans, quand même.
Il y a encore un peu de travail ou c'est réglé, à votre avis?
Non, je pense qu'il y a toujours du travail. Hier, j'étais dans le métro à Paris en heure de pointe et j'étais toute seule. Et quand même, les regards sont... C'est costaud, quoi. C'est costaud.
Ah oui, vous étiez toute seule, vous?
J'étais toute seule dans le métro.
Vous n'étiez pas accompagnée, oui.
Ouais, je n'étais pas accompagnée. Donc, quand on est accompagné, c'est un peu différent parce qu'on peut s'appuyer un petit peu sur la personne à côté. Là, j'étais toute seule dans une rame de métro à Paris en heure de pointe où on voyait quand même un peu mes cicatrices parce que, justement, je ne mets plus de col roulé. Ouais, faut le surmonter, quoi, quand même.
Alors, est-ce qu'il faut surmonter ou est-ce qu'il faut dire, après tout, j'en ai rien à foutre et pour pas avoir à surmonter ça, je mets un foulard le temps de 3 stations?
C'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Pendant 5 ans, je me suis couverte en mode, je vais pas leur montrer. Et finalement, moi, j'étais pas libre de vivre comme ça. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver.
Ils sont durs, les gens.
Ouais, ils sont durs.
Ils sont méchants, les gens. Les regards sont...
Je pense qu'ils s'en rendent pas compte.
Ils se rendent pas compte?
Ouais, je pense qu'ils s'en rendent pas compte.
Ils sont bêtement curieux.
Yeah, ouais, puis c'est des questions. Je pense que des fois, il y a de l'admiration. De « Ah ouais, elle sort comme ça, elle arrive à s'accepter. » Et je pense que des fois, il y a de la compassion et des fois, c'est clairement du... Peut-être pas du dégoût, mais de la bêtise, je pense. Du vrai questionnement.
Oui, ça, ils sont cons. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Qui viennent justement à votre rencontre.
Ouais,
mais avec empathie.
Ouais, mais du coup, aujourd'hui, je préfère ça. C'était pas nécessairement le cas quand j'étais plus jeune. J'avoue que la question, elle me dérangeait parce que j'avais pas forcément envie d'en parler, parce que j'avais pas fait ce travail
quand
d'acceptation.
Plus jeune, vous avez 26 jeune. Ans, ça veut dire quoi? Il y a 5 ans.
Plus jeune que vous, ça veut dire.
Ça, c'est pas compliqué. Votre vanne pourrie, on dirait Baffy.
Baffy.
Oui, c'est ça, oui.
Aujourd'hui, c'est vrai que je préfère finalement cette question et que je puisse l'exprimer et que je puisse en parler plutôt que le regard sans avoir de questions, qui est plus compliqué pour moi à vivre, je pense.
Ouais, mais c'est dingue de se dire qu'encore hier, dans le métro, vous avez encore ressenti des regards balourds, quoi.
Mais ouais, mais.
Pour pas dire autre chose.
Oui, mais je pense que c'est parce qu'il y a encore beaucoup à faire.
Et puis les gens, tu sais, il y a un accident de la route sur l'autoroute, de l'autre côté
du rail,
ils ralentissent pour faire des photos, hein.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai.
C'est affreux, mais c'est comme ça.
C'est l'humain.
Donc vous avez décidé d'écrire pour vous sortir de tout ça, vous avez décidé de partager, et pour vous aider vous. Mais là, maintenant, vous êtes à un autre stade. Si vous avez décidé de partager pour vous aider vous, et peut-être même filer, et je le sais puisque j'ai regardé, pour filer des coups de main aux autres.
Ouais, exactement. Bah, c'est un peu. C'est juste que j'ai trouvé du sens en ce qui m'était arrivé comme ça, en fait. En me disant, bah, toi, tout ce que tu as appris de la vie, bah, c'est chouette, mais du coup, c'est chouette de le transmettre aussi à d'autres personnes qui en ont besoin. Je revois souvent, moi, la jeune fille que j'étais justement à 16 ans dans mon lit d'hôpital qui n'avait pas trop de. Qui n'avait pas de réponse, même pas du tout, qui les cherchait. Et du coup, aujourd'hui, si je peux les donner. C'est ma mission, je pense.
Le message principal, ce serait quoi? Puis après, ça se déroule, mais la phrase principale, ce serait quoi?
La phrase principale, je pense que ça serait que la vie, des fois, elle est injuste, que j'en sais quelque chose, mais qu'elle vaut la peine d'être vécue. Ça, je pense que c'est le message principal.
Quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive.
Vous avez eu des idées noires?
Ouais, bien sûr. J'en ai eu. J'en ai eu à l'hôpital parce que c'est dur, parce qu'on est alité, surtout dans ces périodes où je pouvais pas bouger, comme on disait tout à l'heure.
Le truc du miroir, ça me tue, j'avoue.
Ouais, bah c'est plutôt à ce moment-là.
C'est une torture un peu.
Ouais, c'est une torture, franchement.
Mais vous leur avez dit?
Ouais, plein de fois.
Et ils disent quoi?
Que j'étais pas prête.
Vous pensez qu'ils avaient tort?
Moi, je pense qu'ils avaient tort.
Moi, je pense en vous entendant
qu'ils
n'avaient pas tout à fait raison.
Moi, je pense que ça m'a.
Il fallait que vous tout de suite que vous rentriez dans la bagarre.
Au moins, c'était acté,
ouais,
quoi.
Ouais.
Non, c'était long.
Vous en avez parlé avec les psys après?
Ben en fait,
avec les mêmes.
Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait le choix de plus être suivie psychologiquement parce que j'ai trouvé mes thérapies ailleurs. Mais
C'est-à-dire pas de suivi psychologique, mais sport et tout ça.
Exactement.
Donc vous n'avez jamais été re-suivie psychologiquement depuis?
Non.
Ah non?
Non. Ma thérapie aussi, elle est dans le fait d'aider les autres, quoi.
Ils vous ont pas un peu dégoûté à l'hôpital plutôt?
Si, clairement. Enfin, ouais. Je pense qu'il y a ça. Et puis même moi, personnellement, quand ma psy me parlait, vu qu'elle n'était pas brûlée, j'avais du mal à l'écouter. Je pense que le suivi psychologique, il doit être personnel. Enfin, ça doit être une démarche personnelle. Et moi, vu que j'en voulais pas, c'était compliqué. Enfin, j'avais pas l'impression d'être vraiment aidée, quoi. En vrai, ma thérapie, je la trouvais plus dans mes proches et dans ce que j'aimais faire que le reste.
Et aujourd'hui, alors, cette parole que vous donnez aux autres, vous la donnez à qui?
Alors, au début, je pensais que j'allais viser que les grands brûlés dans mon histoire, parce que je suis moi-même brûlée. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de barrière à un combat, en fait, et que mon combat, il était capable de résonner autant chez des hommes qui étaient tétraplégiques. Que des femmes qui étaient amputées, que juste même des femmes qui avaient des vergetures et qui n'osaient pas se mettre en maillot sur la plage, parce qu'elles ne l'acceptaient pas.
Il y a même des femmes, c'est une catastrophe, qui ne veulent pas d'enfants pour ne pas avoir surtout de traces sur le ventre. Vous imaginez?
Je leur dirais que du coup, en fait, c'est dommage de se priver, je pense, de ce que la vie peut offrir par peur du regard des autres, en fait.
Aujourd'hui, vous avez l'air d'être super en forme. Vous travaillez?
Sur les réseaux sociaux, du coup.
Et ça vous fait vivre?
Oui.
Vous avez combien de followers?
630 000 sur Instagram.
600 000 sur Insta.
Ouais.
Et ça fait rapporter de l'argent.
Ouais, parce que on a une visibilité qui est conséquente et les marques utilisent cette visibilité pour travailler avec nous.
Et vous représentez des marques, par exemple, je dis n'importe quoi, de crème pour femmes?
Ouais, je bosse beaucoup avec La Roche-Posay, qui a été rachetée par L'Oréal.
Qui est un super produit.
Qui est un super produit, notamment pour les grands brûlés.
Donc, alors moi aussi, j'étais brûlée là, ici, La Roche-Posay. Non, mais ça, c'est vrai, regarde, tu vois?
Ah ouais, c'est vrai.
Mine de rien.
C'est vrai.
Elle est belle, celle-là.
Vous avez fait quoi?
Elle a 2 mois. J'ai vu une bûche il y a 3 mois dans la cheminée et mon bras s'est posé.
Et votre réflexe, alors, ça a été quoi?
J'ai fait une énorme connerie. Tiens, on va dire les premiers réflexes.
Ça, c'est
une très bonne idée.
Bien sûr, c'est
j'ai
ça
fait
que
tout
vous
ce qu'il
ne
fallait pas faire. Donc, je suis allé immédiatement prendre un glaçon.
Quelle erreur.
Et je sais, donc on va dire tout ce que j'ai fait. Et à chaque fois, vous allez me donner une note de 1 à 10.
Là, c'est 0.
Je sais. Donc j'ai posé un glaçon pendant... j'ai frotté avec un glaçon comme ça pendant 5-6 minutes en regardant mon film. Ensuite, je suis allé chercher de la crème que j'ai mis en bonne épaisseur.
Quelle crème?
Alors j'ai mis de la Yalucette.
Ah!
Qui est bien.
Franchement, 10 sur 10.
Ouais.
Non, ça va.
Non, parce qu'il ne faut pas mettre de crème. Bah.
10 sur 10, la Yalucette.
Oui, voilà. Mais en fait, il ne faut pas mettre de crème parce que ça garde la chaleur.
Exactement.
Voilà. En fait, il faut mettre sous l'eau à température ambiante.
Vous avez cloqué et tout, du coup?
Non, j'ai eu un, parce qu'en fait, j'ai mis un pansement. Et une heure ou deux après, j'ai voulu regarder.
Ouais, c'était l'enfer.
Et donc, quand j'ai enlevé le pansement...
La peau est partie avec?
Tout est venu, oui.
Oui, bon.
Voilà.
Ça, c'est zéro aussi.
Ah oui, zéro, oui. Ah non, mais nul. Nul. Non, mais j'étais emmerdé pendant trois mois.
On peut rappeler la règle des 3x15. En plus, vous la connaissez.
Allez-y.
C'est ça qui est dingue. Vous venez de la dire, du coup.
De quoi?
La règle des 3x15, du coup, c'est quand on se brûle, on fait couler une eau tempérée, donc à 15 degrés environ.
Pendant un quart d'heure.
Pendant un quart d'heure, à 15 cm de la plaie. Pas directement dessus, un peu au-dessus. Et 4x15, même, on appelle le 15 pour avoir un avis médical.
Ah oui, oui, bien sûr.
Qui vous diront normalement de ne pas mettre de glaçons dessus.
Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont proposé éventuellement de barrer le feu?
Oui, oui, oui. Moi,
tu l'as tenté?
Mon père a fait appel à un barreur de feu quand j'étais dans le coma. Ça a été assez incroyable.
Une seule fois, non?
Non, non, plusieurs fois pendant toute la durée du coma. Et il arrivait, en fait, lui, quand mon pronostic vital était engagé avec cette fièvre de 43 degrés.
Mais 43, c'est...
Non, mais faut, c'est...
C'est un gros palu, hein.
Bah, c'est à la limite de...
Oui,
à la limite de
c'est une brochette.
Ah oui, c'est...
Oui, oui.
Voilà. Et en fait, il arrivait à réguler ça, en fait, à distance, sur des photos.
Ah oui.
Ouais. Il y a un moment dans le coma où du coup j'avais encore cette fièvre et en fait il pensait que ça venait d'une infection. Donc il voulait m'ouvrir le ventre.
Ce qui était possible.
Ce qui était possible. Il voulait m'ouvrir le ventre, le seul endroit où quasiment je suis pas brûlée, donc trop bien. Ma mère, elle était comme une ouf. Et en fait mon père a appelé dans un désespoir le barreur de feu qui a bossé sur moi pendant des heures et des heures. Et le soir en fait ma fièvre était descendue naturellement à 38.
5 degrés.
Comme par magie. Non, mais même plus de fièvre, en fait. Alors que pendant des mois et des mois, j'avais de la fièvre. La fièvre était complètement redescendue. Mon père, le matin, donc il a un appel de l'hôpital en mode, bah, finalement, on ne l'opère pas. Elle est descendue à 38, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer. Mon père a appelé le barreur de feu, il a fait sonner une fois. Le barreur de feu a répondu, il lui a dit, oui, je sais. Avant même que mon père dise un truc, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou.
C'est dingue. Vous étiez où?
Bah, moi, j'étais dans un hôpital militaire à Sainte-Anne, à Toulon.
Oui, parce que c'est en principe ceux qui sont...
Mon chirurgien, pour le coup, est très, très, très rationnel.
Ah.
Donc, barreur de feu, c'était pas du tout une question, quoi. Mais et puis, j'ai eu un des meilleurs chirurgiens de France, surtout.
Parce que vous avez été opéré à de nombreuses reprises?
Ouais. Moi, je suis incapable de les compter, je crois.
Ah oui?
Oh,
pourquoi? Pour des greffes de peau?
Oui, bah ouais.
Uniquement?
Ouais.
Qu'on vous a pris ici, qu'on vous a remis là, machin?
Exactement.
Et ça dure combien de temps entre le moment où vous en prend un bout et qu'on vous le repose? C'est le jour même? Enfin,
Je sais qu'il la passe, en tout cas, dans une machine pour l'étendre et tout. Je pense que c'est le jour même. Je pense pas qu'il a. Ouais, je pense pas qu'il a.
Donc vous avez un peu des fesses sur les bras.
C'est exactement ça.
C'est ça.
Ah ouais. Et puis j'ai des traits blancs surtout. Ça laisse des marques aussi les prises de greffe du coup.
Bah, c'est trop sympa. Par exemple, si quelqu'un veut vous embrasser.
Bah là sur la joue.
Ouais.
On sait pas. S'il faut que vous faites la bise et vous embrassez mon bras quoi.
Ouais. C'est ça. J'aimerais bien vous entendre donner 2-3 conseils à des gens qui sont pas forcément des grands brûlés. Mais qui ont des merdes dans la vie, qui ont des merdes perso, des petits boulets même parfois,
ouais,
qu'on estime être très gros. Vous avez eu un camion de boulets. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire?
Bah, il faut dire qu'en vrai, quand on. Dans les moments sombres, on oublie des fois qu'on a cette petite parcelle de bonheur. En fait, je pense que le moment sombre qu'on vit, le drame qu'on vit, nous fait oublier qu'on a des beaux moments qui nous attendent. Et je leur dirais juste de se rattacher à la lumière qu'ils ont autour d'eux. Moi, ça a été le sport, l'amour de la vie, mes proches. Et je pense qu'on a toujours une raison qui fait au moins qu'on aime la vie et qu'on peut s'en relever.
Dans votre bouquin qui est chez Marabout Hachette, qui s'appelle « Chaque jour compte », vous expliquez tout ça. Vous diriez que c'est un bouquin de quoi? De témoignage ou un bouquin de...
Développement personnel.
C'est ça.
Je dirais que c'est un mix entre une écriture d'introspection et autobiographique, parce que j'y raconte aussi tout le témoignage dont on s'est parlé et des conseils pour aller mieux. Donc, le juste milieu entre le développement personnel et l'autobiographie.
Enfin, moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui a l'air d'aller très très bien, en tout cas.
Ça va très bien.
Eh bien, je vous remercie mille fois d'être venu.
Merci.
Julie Bourge, à bientôt.
Et je chante même. De sa belle chasse copain. De sa belle chasse copain.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.